Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout un chacun et à toute une chacune. C'est Et si on en parlait ? Comme ma foi, le mardi soir, une fois par mois, sur Radio Calade. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui existe depuis longtemps, qui pose problème depuis longtemps, et ça m'a donné l'idée, comment m'est venue l'idée de parler de l'amiante ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu des travaux dans la cour et sur les bâtiments des grands moulins pour, ma foi, enlever des ferrailles qui traînaient par là, enlever des vieux bâtiments qui servaient plus à rien, mais aussi pour désamianter, parce que c'est les toits, les toitures, mais pas que, étaient cafis d'amiante. Et donc je me suis dit, tiens, l'amiante, ça fait longtemps que j'en entends parler, on va essayer de faire un point là-dessus. Alors l'amiante, elle est utilisée massivement dans près de 3000 objets du quotidien, mais aussi dans l'isolation des bâtiments jusqu'en 1997. L'amiante, c'est une fibre aux 1000 usages qui, pourtant, très rapidement, a été révélée nocive et fort nocive. Alors, présente dans la nature depuis toujours, l'amiante, fibre minérale donc aux propriétés ignifuges, isolantes et résistantes, a commencé à intéresser les industriels à partir des années 1860. Donc vous voyez, c'est vieux. Utilisée sous forme brute de plaques, de feutres, de poudres, mélangée à du ciment, à des matières plastiques ou encore à du béton, l'amiante était alors un matériau roi. Entre 1973 et 1975, on estime que la France utilisait près de 150 000 tonnes d'amiante par an. Les principaux producteurs d'amiante étaient alors la société Eternit, tout le monde a entendu parler de cette société, et la société Dalamy, avec des usines un peu partout en France. Pourtant, on le sait aujourd'hui, l'amiante est hautement toxique et a fait plus de mal que de bien sur la planète. En effet, lorsque les fibres d'amiante sont inhalées, elles se déposent sur le tissu pulmonaire ou l'enveloppe du poumon et peuvent causer des maladies plus ou moins graves, comme des inflammations ou des cancers du poumon qui peuvent être mortels. De plus, en plus de ces maladies localisées, certaines études lient également l'amiante à d'autres cancers, notamment le cancer du larynx, du côlon, de l'appareil digestif, du rectum ou de l'appareil urogénital. Donc vous voyez, c'est un matériau absolument magnifique. Alors, on va quand même faire un petit historique de cette histoire de l'amiante pour voir à quel point c'est ancien et à quel point sa nocivité est connue et à quel point, ben, d'année en année, on a laissé perdurer tout cela. Donc, en 1899, on déplore le premier cas de décès répertorié à l'amiante à Londres. En 1906, il y a un rapport sur la surmortalité des ouvriers d'une usine utilisant de l'amiante dans le Calvados. En 1918, les compagnies d'assurance américaines décident de ne plus assurer les travailleurs de l'amiante. En 1918. En 1927, découverte de l'asbestose, c'est une fibrose qui est liée à l'amiante. En 1945, l'asbestose est reconnue comme maladie du travail en France. En 1949, le port du masque devient obligatoire pour les professionnels exposés à l'amiante. De 1950 à 1957, il y a une étude du docteur Dole qui fait le lien entre le cancer du poumon et l'inhalation de fibres d'amiante. En 1973, c'est le début des procès contre les industriels de l'amiante aux États-Unis. En 1975, interdiction aux moins de 18 ans de travailler dans le secteur de l'amiante. En 1975 toujours, scandale de l'amiante sur le campus de Jussieu, faculté parisienne. En 1976, le Centre international de la recherche sur le cancer classe toutes les variétés d'amiante comme étant des cancérigènes avérés. En 1977, les salariés ne peuvent plus être exposés à plus de 2 fibres d'amiante par centimètre cube. En 82, le comité permanent d'amiante est créé par les industriels de l'amiante. En 88, interdiction de l'amiante. 88. En 96, obligation des propriétaires à réaliser un diagnostic sur la présence d'amiante dans leur bâtiment. En 96, fondation de l'Association nationale des victimes de l'amiante. En 96 toujours, ouverture d'une information judiciaire contre X pour violence volontaire et abstention délictueuse en 97, interdiction de la fabrication, de l'importation et de la mise en vente de produits contenant de l'amiante à partir du 1er janvier. En 98, mise en place de la retraite à 50 ans pour les salariés étant exposés plus de 30 ans à l'amiante. En 2001, création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En 2004, la faute de l'État est reconnue par un arrêt du Conseil d'État. Voilà, tout est établi, connu, mais cependant, le scandale perdure. C'est ainsi que l'on... Donc, le scandale de l'amiante, ce fameux scandale, c'est ainsi que l'on désigne en France le délai qui a existé entre la découverte des effets sanitaires nocifs de l'exposition humaine à ce matériau isolant et l'action préventive des autorités sanitaires et politiques. On parle aujourd'hui de 100 000 morts liées à l'amiante d'ici à 2025, alors que les dangers de l'amiante étaient connus depuis le début du XXe siècle. Le récit d'une catastrophe annoncée donc est du pouvoir des lobbies industriels, du silence des pouvoirs publics et de la minimisation des risques. Ce laps de temps de réaction, donc, qui apparaît aujourd'hui proprement invraisemblable, s'étale approximativement du milieu des années 70 à la fin des années 90. À l'époque, bien sûr, le concept de lanceur d'alerte n'existait pas, pas plus que celui de démocratie sanitaire. À l'époque, les médias généralistes étaient rarement en situation de dénoncer l'action des lobbies. À l'époque, les scandales sanitaires qui devaient suivre, à commencer par celui du sang contaminé, n'avaient pas encore conduit à théoriser la dissociation entre l'évaluation médico-scientifique du risque et la gestion politique de ce dernier. À l'époque toujours, enfin, on était à 100 000 coudées d'imaginer que l'on inscrirait un jour le principe de précaution au sein de la Constitution. Un demi-siècle, donc, après l'émergence de ces premiers symptômes, le scandale de l'amiante est pourtant toujours d'actualité en France. À cela, deux raisons principales. Le caractère spécifique de la lésion qu'il provoque, ça s'appelle le mésothéliome, c'est un cancer de la plèvre pulmonaire, et le temps de latence pouvant généralement exister entre l'exposition et l'apparition de la maladie, 30, 40 ans des fois avant que la maladie se déclare. À partir des années 50, le développement massif de l'usage de l'amiante dans tous les pays industrialisés s'est accompagné d'une augmentation importante et régulière de l'incidence de ces cancers de la plèvre pulmonaire. Les expositions d'origine professionnelle sont responsables de la très grande majorité des cancers liés à l'amiante. Avec le temps, les professions les plus exposées ont évolué. Dans les années 60, la hausse de l'incidence de ces cancers était surtout observée dans le secteur de l'industrie, de l'extraction, de la transformation et de l'utilisation de l'amiante. Depuis les années 80, c'est le personnel réalisant des travaux d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante qui est le plus touché. De très nombreuses professions sont concernées, notamment dans l'industrie du bâtiment, mais pas seulement, et entre autres dans ceux qui dépolluent, qui désamiantent. Certains pays ont depuis longtemps pris des mesures pour réduire la fréquence et les niveaux d'exposition à l'amiante. On peut y voir l'augmentation de l'incidence et de la mortalité par ces cancers commencer à ralentir, voire à diminuer. Les mesures donc servent. Tel n'est pas le cas en France, eh oui, où des projections réalisées il y a 20 ans indiquaient que la hausse de la fréquence de la maladie devrait se poursuivre pendant au moins 2 ou 3 décennies. Il apparaît aujourd'hui, malgré tout, qu'il s'agissait encore d'une sous-estimation. Depuis 1998, soit un an après l'interdiction de l'usage de l'amiante en France, le Programme national de surveillance de la maladie, le PNSM, fournit des données chiffrées aidant à prendre progressivement la mesure de l'ampleur du scandale passé. Fin juin 2019, c'est tout récent, Santé publique France a dévoilé un rapport revenant sur ses 20 années de surveillance qui confirme malheureusement que l'exposition à l'amiante demeure et demeurera encore pendant plusieurs décennies un sujet majeur de santé publique, une forme de tragédie nécessitant le maintien de la surveillance et le renforcement des actions de prévention. En effet, les effets pathologiques de l'amiante peuvent apparaître jusqu'à 30 à 40 ans après la première exposition. Les derniers résultats du PNSM montrent donc que, dans l'Hexagone, que ces cancers sont toujours plus nombreux. Ce rapport précise, on estime aujourd'hui que 1100 nouveaux cas surviennent chaque année en France. L'augmentation est plus marquée chez les femmes, avec un doublement des cas en 20 ans pour atteindre 310 par an. On constate une prédominance forte des expositions professionnelles chez l'homme, avec plus de 9 hommes exposés sur 10 concernés. La proportion des personnes atteintes ayant exercé une activité dans le secteur du BTP est en augmentation constante depuis 1998, pour atteindre 50% en 2016. Une exposition professionnelle de l'amiante est retrouvée de manière probable ou très probable pour 97% d'entre eux. Tous les gens, ou presque tous les gens, qui ont travaillé dans l'amiante au bout de 30 à 40 ans déclarent un cancer. Santé publique France relève également des disparités de genre dans l'exposition à l'amiante. On constate une prédominance forte des expositions professionnelles chez l'homme, avec plus de 9 hommes exposés sur 10 concernés. Chez les femmes, la part des expositions professionnelles à l'amiante reste faible. Peu de femmes travaillent dans ce secteur. Et 35% des femmes ont été exposées en dehors du temps de travail. Il s'agit le plus souvent d'expositions via le fait de résider avec des conjoints ou parents qui ont été exposés professionnellement. Des expositions aussi domestiques ou via le bricolage. Et voilà, il n'y a pas que quand dans le BTP, même les gens qui vivent dans une famille de quelqu'un qui a été exposé peuvent choper le cancer. Alors les indemnisations, bien sûr, tout de suite on a parlé argent. Bien évidemment, les maladies générées par l'exposition professionnelle à l'amiante sont inscrites au tableau des maladies professionnelles du régime d'assurance maladie des salariés comme des exploitants agricoles. Depuis 2002, toute personne victime des effets de l'amiante peut également obtenir une indemnisation auprès du fonds d'indemnisation, le FIVA. Les données donc montrent que malgré tout, ce n'est pas très clair la façon dont ces personnes sont indemnisées. Et on se bat, beaucoup de gens se battent pour que ces indemnités ne soient pas reconnues. En 2005 et 2017, plus d'une personne sur quatre atteinte de la maladie et affiliée au régime général de sécurité sociale n'avait entrepris aucune démarche de reconnaissance de maladie professionnelle. Une telle situation est d'autant moins compréhensible que cette maladie est une pathologie spécifique et que l'établissement d'un tel diagnostic devrait aussitôt conduire à une prise en charge adaptée. Il serait donc indispensable de mieux informer les professionnels de santé et leur patientèle sur les possibilités en matière d'indemnisation. Mais on en est très très loin. Alors c'est dans ce contexte que s'est développée une évolution législative suivie d'un récent revirement de jurisprudence. Une loi du 23 décembre 1998 rendait possible un départ à la retraite anticipée pour les salariés ayant été particulièrement exposés à l'amiante sans avoir développé pour autant une maladie professionnelle liée à cette exposition. En 2010, la Cour de cassation reconnaissait le droit pour les salariés ayant travaillé dans certains établissements, par exemple dans la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage, de calorifurage, de demander la réparation d'un préjudice tenant à l'inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer à terme une maladie liée à l'amiante. La même Cour précisait en 2017 que les salariés n'entrant pas dans le champ de la loi ne pouvaient pas bénéficier de la réparation du préjudice d'anxiété, même sur le fondement d'un manquement à l'employeur de son obligation de sécurité. Eh oui, la loi existe, mais on ne l'applique pas. Quand les procédures engagées par les salariés ne relevant pas de cette loi, donc, mais ayant été exposés à l'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé sont multipliées, il est apparu que le cadre légal n'était pas adéquat. La Cour de cassation a alors été saisie pour permettre un réexamen complet de la question de la réparation de ce préjudice d'anxiété. Et donc, le 5 avril 2019, elle a jugé qu'un salarié exposé à l'amiante, même sans travailler dans l'un des établissements mentionnés par la loi, et ayant de ce fait un risque élevé de développer une maladie grave, pouvait demander la réparation d'un préjudice d'anxiété sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur qui devra en apporter la preuve.
Il a respiré la poussière à plein poumon.
ne doit l'oublier.
Pour faire un rouge la rongée.
Chaque jour, en France, 10 d'entre nous sont tués par l'amiante. Chaque année, 3 à 5 000 personnes meurent tuées par l'amiante. Dans les deux prochaines décennies, 100 000 morts sont déjà programmées. Je ne vous parle pas là de morts naturelles, mais d'empoisonnement, d'assassinat. Nous exigeons le procès pénal de l'amiante. Tant que les responsables de ces milliers de morts ne sont pas condamnés, les empoisonneurs, actuels et futurs, n'ont pas à s'inquiéter. C'est un permis de tuer en toute impunité qui leur est délivré. Aujourd'hui, seules les victimes et leurs familles payent les conséquences de ces fautes graves au prix de ce qu'il y a de plus précieux, au prix de la santé qui se dégrade, au prix de vies brisées, au prix de familles anéanties. Cette catastrophe sanitaire sans précédent était évitable. C'est avec la complicité de médecins, de scientifiques, de politiques et de représentants de salariés que les industriels de l'amiante ont œuvré contre l'interdiction de ce poison. L'amiante a brisé la vie et la santé de plusieurs millions de personnes dans le monde. La vie et la dignité humaine doivent être préservées sur les lieux de travail et de vie. Personne n'a le droit de donner la priorité au profit au détriment de la santé et de la vie humaine. L'amiante, qui doit être interdit dans tous les pays immédiatement, continue à être produit et commercialisé dans les trois quarts de la planète.
Pas stoppé dans ce silence.
La poussière qui danse,
à genoux la poussière.
Puisque nos rêves ne sont qu'audience,
condamnés.
Alors, il reste donc encore bien du chemin à parcourir pour évaluer l'ampleur réelle et les innombrables conséquences du scandale de l'amiante en France. De ce point de vue, la décision de non-lieu dans l'affaire Eternit est édifiante. Dans leur ordonnance datée du 10 juillet 2019, les juges d'instruction écrivent que, compte tenu de l'impossibilité de dater l'intoxication des plaignants, il apparaît impossible de déterminer qui était aux responsabilités au sein de l'entreprise et quelle réglementation s'imposait à cette date inconnue. En tout état de cause, les investigations menées au cours de l'instruction ont démontré qu'aucune faute de nature pénale ne pouvait être imputée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales en lien avec la société Eternit. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce cas d'Eternit de cette société est hautement symbolique. L'entreprise était à la fois le premier producteur français d'amiante ciment jusqu'à l'interdiction de la fibre et le premier producteur visé par une plainte de cette nature déposée pour homicide et blessures involontaires par d'anciens salariés en 1996. L'Association nationale des victimes de l'amiante et autres polluants a d'ores et déjà annoncé qu'elle entendait interjeter appel, estimant que ce non-lieu reposait, comme d'autres auparavant, sur une erreur majeure d'interprétation des données scientifiques. Selon l'association, cette exposition dans son entier qui contribue à la maladie et toutes les personnes à l'origine de cette exposition ont une responsabilité pénale. L'association a aussi indiqué qu'elle déposerait au cours de la première semaine de septembre 2019, ce qui a été fait, une situation directe visant les responsables nationaux de cette catastrophe sanitaire qui fera plus de 100 000 morts. Le parquet et les juges d'instruction cherchent à faire durer les procédures le plus longtemps possible pour qu'il n'y ait plus de personnes à juger, avance encore l'association, qui note que les responsables, mais aussi les victimes, décèdent les uns après les autres. Quand il n'y aura plus personne, l'affaire sera classée. Alors, cet appel, il a été déposé le 20 janvier 2021. Et la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris relance donc l'espoir d'un grand et vrai procès pénal de l'amiante. La juridiction a en effet infirmé le non-lieu rendu en juillet 2019, ce non-lieu scandaleux qui disait que personne n'était coupable. Désormais, les conditions sont réunies pour qu'un grand procès pénal de l'amiante ait lieu, se réjouissent dans la foulée l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. Logiquement, explique cette dernière, cette décision devrait être déclinée dans tous les dossiers que la juridiction doit traiter, Valeo, Eternit, la direction des constructions navales, etc. L'Association des victimes de l'amiante avait quant à elle salué un arrêt de pur bon sens. Mais voilà, le parquet lui a donné raison donc en annonçant dès le 22 janvier 2021 sa décision de se pourvoir en cassation contre la décision de la juridiction d'instruction et demander le renvoi des autres affaires dans l'attente de la haute juridiction judiciaire. Alors voilà, cet acharnement du parquet pour empêcher la manifestation de la vérité, de surcroît avec des arguments scientifiques et juridiques totalement grotesques, ajoute un scandale judiciaire au scandale sanitaire. Donc la perspective du procès s'éloigne une fois de plus. Et ma foi, ce procès pénal ne verra peut-être pas le jour parce que tout le monde sera mort avant la date. Alors, la date de ce procès. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le vice-président de l'Association des victimes de l'amiante et les avocats des victimes demandent à François Molin, donc le procureur général de la Cour de cassation, d'examiner en urgence absolue ce dossier. Voilà, une fois de plus, ça traîne, la justice traîne, les lobbies font leur œuvre. Tout se passe comme si, ma foi, tous ces morts et les morts annoncés, les 100 000 morts, n'existaient pas. La puissance des lobbies est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la théorie du complot. Alors le complotisme et sa fameuse théorie bâillonnante qui empêche tout questionnement et enquête, c'est le fait de récuser la version communément admise d'un événement. Là, je veux dire, le complotisme, il se contente de récuser, mais il ne démontre rien. Là, avec le scandale de l'amiante, nous sommes carrément dans toute autre chose. Les faits sont démontrés, avérés, ils proviennent de multiples sources et d'enquêtes, ils sont confirmés par de nombreux procès et des décisions législatives et judiciaires. La définition du complot, c'est un projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement. On est en plein dedans, donc il n'y a pas d'histoire de complotisme, les faits sont prouvés, l'amiante tue, l'amiante continuera à tuer. Il y a des gens qui font tout pour empêcher que justice soit rendue et que les protections soient données. Voilà, nous sommes en plein dedans, dans un véritable complot, mais pas du tout dans le complotisme. Ne mêlons pas tout. Voilà, je tenais à vous parler, suite aux travaux qui ont été faits au Grand Moulin, du problème de l'amiante, qui est un problème scandaleux, mais il en cache d'autres. Il en cache d'autres. Mediator, le sang contaminé, toutes ces choses qui, ma foi, au niveau des tribunaux, traînent ou disparaissent. Si vous êtes intéressé pour plus d'informations sur ce point, il y a des documentaires que vous pouvez voir sur le net, trois excellents documentaires. Il y a un documentaire de Joseph Bourgarel qui s'appelle « 100 000 cercueils, le scandale de l'amiante ». Il y en a un autre de Philippe Pichon qui s'appelle « Amiante, enquête de justice ». Et un de Pierre Pézéra qui s'appelle « Les sentinelles ». On trouve tout ça sur le net, c'est tout gratuit en plus. Si vous voulez soutenir faire la demande de que les procès aient lieu dans des conditions des conditions saines, parlons de choses saines. Il y a des pétitions qui existent sur le site www.change.org qui concernent le problème et les actualités liées à l'amiante. Et puis pour toute autre information, vous pouvez aller sur le site http://victime-amiante.org. Voilà, c'était un petit point sur un des mâles du siècle que sont les lobbies dans tous les domaines. C'était Si on en parlait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.